Septième demeure. Quand notre Seigneur daigne avoir pitié des souffrances que l'âme qu'il a choisie comme épouse endure à cause de son désir de s'unir à lui, il l'a fait entrer dans la septième demeure où seul il habite, afin d'accomplir avec elle le mariage spirituel. L'âme ne peut être considérée comme une chose mise dans un coin étroit, mais comme un monde intérieur où ses demeures nombreuses et resplendissantes sont placées. Il doit en être ainsi, puisqu'il y a une demeure pour Dieu dans cette âme. Alors Dieu veut lui donner une grâce qui ne soit ni les ravissements par lesquels il se lie, ni l'oraison de l'union, dans laquelle l'âme n'est pas appelée à entrer dans cette demeure, ce me semble. L'âme ressentait une grande joie d'être si près de Dieu, mais comme ses puissances étaient suspendues, elle ne comprenait rien quand Dieu l'unissait à lui. Ici, il en est autrement. Dieu veut que les écailles tombent des yeux de l'âme, afin qu'elle voie quelle faveur lui est accordée. Sitôt qu'elle est dans cette demeure, les trois personnes de la très sainte Trinité se montrent à elle dans une vision intellectuelle, l'âme voyant les trois personnes en une seule puissance, un seul pouvoir, une seule substance et un seul Dieu. L'âme comprend en quelque sorte, par la vue, ce que la foi nous fait connaître. Pourtant, ce n'est pas une vision imaginaire, l'âme ne voit rien. Les trois personnes lui parlent, lui faisant comprendre clairement ces paroles par lesquelles notre Seigneur annonce qu'il viendra, avec le Père et l'Esprit Saint, résider dans l'âme qu'il aime et garde ses commandements. L'âme est davantage ravie chaque jour. Il lui semble que ces trois personnes, adorables, ne s'éloignent plus. Elle sent leur compagnie divine au plus profond d'elle-même. D'ailleurs, elle a une ferme confiance de n'être pas abandonnée par Dieu et de ne pas perdre la grâce qu'il lui a donnée. Mais plus que jamais, elle veille à ne lui déplaire en rien. La présence habituelle des trois personnes divines n'est pas toujours aussi claire et parfaite que la première fois, sinon l'âme serait incapable de s'occuper d'autre chose et même de vivre dans le monde. Mais quoiqu'elle ne les voit pas aussi clairement d'habitude, il suffit d'y penser pour se retrouver avec elle. Cependant, l'âme attendra qu'il plaise à Dieu d'éclairer son entendement. Il semble que, par cette adorable compagnie, Dieu prépare l'âme à des faveurs encore plus grandes. La personne dont je parle remarquait les progrès qu'elle avait réalisés. Elle avait l'impression que malgré ses travaux et ses occupations, son âme ne s'éloignait pas de cette demeure où étaient les trois personnes divines. Peu après, elle eut de grandes épreuves. Elle se plaignait de son âme, comme Marthe de Marie, en lui reprochant de ne s'occuper que de jouir à son gré de la quiétude du vide, en la laissant au milieu de tant de croix qu'elle ne pouvait être avec elle. D'habitude, ce qui se passe dans l'âme parvenue à ce degré, on voit d'intérieurement des choses qui montrent clairement la différence entre l'âme et l'esprit, quoiqu'il ne soit qu'une seule chose. D'abord, nous allons commencer à parler du mariage divin et spirituel, quoique cette très haute faveur n'ait pas sa pleine perfection durant notre vie terrestre. Lorsque notre Seigneur accorde pour la première fois cette faveur à l'âme, il lui montre dans une vision imaginaire sa sainte humanité pour qu'elle connaisse la grâce souveraine dont elle est l'objet. Peut-être qu'à d'autres personnes, il se manifeste sous une autre forme. Notre Seigneur apparut à celle dont j'ai parlé alors qu'elle venait de communier. Il avait la même beauté, la même splendeur, la même majesté qu'après sa résurrection. Il lui dit que le moment était arrivé où elle devait regarder comme sien ses intérêts à lui, lui-même prenant soin de ses intérêts à elle. Cette faveur vous semblera n'avoir rien d'extraordinaire, notre Seigneur s'étant déjà manifesté à cette personne de la même façon. Cette personne en fut bouleversée à cause des paroles dites par notre Seigneur. En effet, la différence est très grande entre les grâces de cette demeure et les faveurs passées. Il y a autant de différence entre les fiançailles spirituelles et le mariage spirituel, qu'entre ceux qui sont fiancés et ceux qui sont unis par le mariage. L'âme, dans cette faveur, ne se souvient pas plus de son corps que si elle en était séparée et qu'elle fût un pur esprit. Le mariage spirituel, elle s'en souvient encore moins, parce que cette union secrète est contractée au plus profond de l'âme où habite Dieu lui-même. Le Seigneur se montre au milieu de l'âme, non dans une vision imaginaire, mais dans une vision intellectuelle. C'est ainsi qu'il apparut à ses apôtres, sans entrer par les portes, quand il leur dit « la paix soit avec vous. Cette faveur communiquée en un instant par Dieu à l'âme est une grâce si élevée que je ne sais à quoi la comparer. Il me semble que notre Seigneur veut, à ce moment, manifester à l'âme la gloire du ciel par un moyen supérieur à toutes les visions. Ainsi, l'esprit de l'âme devient une seule chose avec Dieu, qui s'unit si intimement à la créature qu'à l'exemple de ceux qui, sur la terre, sont unis pour toujours, il ne veut plus se séparer de l'âme. L'union est différente pour les fiançailles spirituelles. La faveur de l'union passant très vite, l'âme ne sent plus cette compagnie. Dans le mariage, l'âme demeure toujours avec Dieu dans ce centre dont j'ai parlé. On peut comparer l'union dont il s'agit à celle de deux cierges, si bien unis que leurs lumières n'en font qu'une. Quant à l'âme, elle ne bouge pas de ce centre où elle est, elle ne perd pas la paix, puisque celui qui l'a donnée aux apôtres quand ils étaient réunis peut la lui donner également. Je pensais que le salut que le Sauveur adressait aux apôtres devait être beaucoup plus efficace qu'il me semble l'indiquer. J'en dis autant de la parole qu'il adressa à la glorieuse Madeleine. « Allez en paix !» Ces paroles devaient bannir tout ce qu'il y avait de corporel dans ses âmes, en n'y laissant que le pur esprit. Ainsi le Christ, priant pour ses apôtres, demanda qu'ils fussent avec lui et le Père, comme lui est dans le Père, et le Père est en lui. Je ne crois pas qu'il y ait un amour plus grand que celui-là. Le Seigneur ayant placé l'âme dans sa demeure à lui, la paix de cette âme n'est plus altérée. L'âme est-elle assurée de son salut? Je n'affirme rien de pareil. La personne dont je parle ne regarde pas son salut comme assuré, au contraire. Sa crainte de tomber dans la moindre faute contre Dieu est plus vive qu'auparavant. Ce n'est pas là une croix légère, mais une pénitence terrible. C'en est une vraie, quand Dieu lui retire la santé et la force lui permettant d'accomplir des austérités. Il est très difficile de comprendre comment l'âme peut conserver la paix au milieu des croix et des chagrins. Mais ça, représentez-vous un roi dans son palais. Nul n'ose entrer dans cette septième demeure pour forcer l'âme à en sortir. Le bruit qu'elle entend ne peut ni la troubler, ni lui enlever la paix. Le Christ vit dans l'âme. Voyons quelle est cette vie. D'après ce que j'ai compris, les effets sont les suivants. Le premier est un oubli de soi tel que l'âme ne semble plus avoir d'être. Elle est entièrement occupée de la gloire de Dieu. Il semble que ce que Dieu lui a dit, qu'elle ait soin de ses intérêts à lui, lui veillerait sur ses siens à elle, opère son effet. L'âme ne voudrait être en rien, sauf quand elle comprend qu'elle peut contribuer à augmenter, ne serait-ce que d'un degré, l'honneur et la gloire de Dieu. Cependant, mes filles, n'allez pas croire que pour cela elle néglige de manger ou de dormir, ou bien d'accomplir les devoirs de son état. Le second effet est un très ardent désir de souffrir, mais qui ne la trouble pas, comme précédemment. L'âme est enflammée par un tel désir que la volonté de Dieu s'accomplisse en elle, qu'elle trouve bon tout ce qu'il ordonne. De plus, ces âmes ressentent une joie extérieure très grande quand elles sont persécutées. Elles n'ont aucune amertume pour ceux qui leur font ou leur souhaitent du mal. Et, chose étrange, elles ne désirent plus mourir, mais vivre encore de longues années au milieu des tourments les plus terribles, afin de procurer un peu de gloire à notre Seigneur. La seule gloire est d'aider en quelque chose le divin crucifié. Elles n'ont pas plus peur de la mort que d'un suave ravissement. Profondément détachées de tout, ces âmes n'aspirent qu'à la solitude. Elles passent leur vie dans le souvenir et l'amour tendre de notre Seigneur. Elles voudraient chanter sans cesse ses louanges. Mes sœurs, quand vous sentirez ces impulsions, dites-vous qu'elles viennent de cette demeure intérieure où Dieu habite. Rendez-en les actions de grâce les plus vives au divin Maître. Ou dites-lui, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Dieu vous enseignera beaucoup de moyens de lui être agréable. La différence existant entre cette demeure et les six autres, c'est que l'âme n'y éprouve presque jamais de sécheresse ni de troubles intérieurs. Elle est presque toujours dans la quiétude. La majesté de Dieu se manifeste à l'âme qui s'est donnée à lui tout entière. Cela rappelle la construction du temple de Salomon, où on ne devait entendre aucun bruit. Il en est ainsi dans le temple de Dieu. Je suis étonnée que l'âme parvenue à cet état n'ait pas plus de ravissement que de temps à autre, et encore sans être accompagnée d'extase ou de vol de l'esprit. Maintenant, l'âme, jouissant d'une telle compagnie, ne s'étonne de rien. Son extrême faiblesse disparaît, car le Seigneur l'a fortifié. Dieu produit dans l'âme les différents degrés d'oraison, quand il l'unit à lui par ce baiser que, comme l'épouse des cantiques, elle lui a demandé. Alors l'âme connaît la paix complète, recherchée par tous les chrétiens. Mais quelle crainte éprouve l'âme en pensant qu'elle peut perdre un bien si élevé. Les croix ne lui manquent pas, mais ne la troublent pas. La présence du Seigneur résidente en elle-même lui fait aussitôt oublier le reste. Ne croyez pas, mes sœurs, que les effets dont je viens de parler se manifestent constamment au même degré dans les âmes. Notre Seigneur les laisse parfois à leur seule force naturelle. On a alors l'impression que toutes les bêtes venimeuses alentour se conjurent contre ces âmes. Cet état est de courte durée, tout au plus un jour environ. Notre Seigneur permet cette tempête pour que l'âme n'oublie pas ce qu'elle est leur est et reste toujours humble. Ne vous figurez pas que ces âmes ne commettent jamais de péché véniel. Pour ce qui est des péchés mortels, elles en sont préservées. Ces âmes sont affligées de voir ceux qui se perdent. Bienheureux l'âme qui craint Dieu, a dit David. Que le Seigneur nous soutienne toujours de sa main. Je regarde comme certain que le but de ces faveurs est de fortifier notre faiblesse. Ne voyez-vous que ceux qui approchèrent le Christ de plus près furent ceux qui subirent les pires épreuves? Considérons ce que sa glorieuse mère et ses saints apôtres ont enduré. Est-ce pas que par hasard saint Paul est allé dans la solitude pour jouir de ses visions? Lui qui n'avait jamais de repos durant le jour et passé ses nuits à gagner sa vie? J'aime à me rappeler saint Pierre. Fuyant la prison quand notre Seigneur lui apparaissant, il lui dit qu'il allait à Rome pour être de nouveau sacrifié. Que fit l'apôtre? Il s'en retourna immédiatement au devant de la mort. Mes sœurs, l'âme doit négliger son propre repos, être indifférente aux honneurs et à l'estime. Sa seule pensée est de chercher comment elle plaira davantage au Seigneur et comment elle lui témoignera son amour. Quand le Seigneur voit une âme très lâche, il lui envoie une épreuve très rude, dont elle sortira avec profit. Jetez un regard sur le divin crucifié, et toutes les difficultés vous sembleront bien peu de choses. Tout cet édifice a l'humilité pour fondement. Ainsi, mes sœurs, chacune d'entre vous s'appliquera à être la plus petite et l'esclave de toutes. Le château ne doit pas avoir pour un unique fondement la prière et la contemplation. Si vous ne cherchez pas à acquérir des vertus, vous resterez toujours des naines qui n'avancent pas, reculent. Mes sœurs, je voudrais que le but de nos désirs et de nos oraisons fût non de nous faire goûter des jouissances, mais de nous procurer plus de force pour servir Dieu. Prenons tous les moyens possibles pour lui amener des âmes, afin qu'elles soient sauvées et chantent ses louanges à jamais. Quand Marie, sœur de Marthe, alla laver les pieds du Christ et les essuya de ses cheveux, croyez-vous que ce fut une petite mortification? Je vous assure, mes sœurs, que sa meilleure part est venue quand elle eut souffert beaucoup de croix et de mortifications, même si elle n'avait eu que celle de voir son maître s'y abhorrer. C'eût été là un supplice terrible. Que dut-elle endurer à la mort du Sauveur? Vous voyez qu'elle n'était pas toujours dans les délices de la contemplation aux pieds du Seigneur? Faisons ce qui dépend de nous. Sa Majesté comprendra que si nous le pouvions, nous en ferions bien davantage et il nous récompensera, comme si nous lui avions gagné de nombreuses âmes. Mes sœurs et mes filles, plaise à Dieu que nous retrouvions toutes dans ce séjour où nous chanterons éternellement ses louanges. Jésus, au début de cet écrit, je dis avec quelle répugnance je l'ai commencé, mais depuis son achèvement, il me cause la plus grande joie. Mes sœurs, quand je vois dans quelle étroite clôture vous êtes, le peu d'agrément que vous y trouvez et l'insuffisance du local, il me semble que ce sera pour vous une consolation de vous délecter de ce château intérieur dans lequel vous pourrez entrer et vous promener sans avoir besoin de la permission de vos supérieurs. Il vous sera sans doute impossible d'entrer dans toutes ces demeures par vos seules forces, car seul le maître du château peut vous y introduire. Soyez donc très humble et estimez-vous indigne de parvenir même aux troisièmes demeures. Toucherez ainsi plus vite son cœur, ce qui l'inclinera à vous ouvrir les cinquièmes demeures, d'où vous pourrez le servir avec une fidélité telle qu'il vous intuera introduira dans la demeure qu'il s'est réservée. J'ai parlé de 7 demeures, mais dans chacune d'elles, il y en a beaucoup d'autres. Elles sont en haut, en bas, sur les côtés, avec des jardins splendides, des fontaines si ravissantes, que vous voudriez vous consumer en louanges, pour ce grand Dieu qui crée un pareil château. Que notre Seigneur soit béni et loué à jamais. Amen. Amen.
وصاحت